Je voudrais rappeler une fois de plus que le sens général du livre de Job, c'est-à-dire la portée qu'il prend dans l'ordre spirituel, ce qu'il va signifier véritablement, parce que on s'est beaucoup mépris sur ce livre, et même des auteurs chrétiens se méprennent du tout au tout sur ce livre. Je dis bien des auteurs chrétiens, des auteurs de foi, mais qui font en quelque sorte de ce livre le support d'une philosophie à laquelle ils tiennent particulièrement, la philosophie de la souffrance humaine. Alors, ils voient là que sans raison discernable, Dieu soumet son fidèle serviteur Job à une souffrance, parce que la souffrance a une grande place dans la vie de l'homme. C'est vrai. Mais il voit surtout cela, et ses auteurs omettent entièrement la véritable leçon spirituelle, à savoir, nous allons en reparler maintenant dans le cours de cette réunion, à savoir que Dieu a en vue le salut éternel de cet homme. Et ayant en vue son salut éternel, il en a fait en quelque sorte, si vous voulez, un grand exemple ou comme un point de départ concernant non plus quelqu'un du peuple d'Israël, mais précisément quelqu'un qui est en dehors du peuple d'Israël, qui craint Dieu, qui se détourne du mal, qui est intègre et droit, et même en cela un grand exemple, un exemple unique. Eh bien, justement, c'est Dieu. Dieu le choisit pour qu'il soit comme un grand exemple, ou plutôt un point de départ de l'œuvre que Dieu entend faire au milieu des nations, autre que la nation d'Israël, pour sauver les hommes, pour étendre son salut jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux hommes. Or, il va rencontrer des hommes et qui vont se plier à une certaine discipline morale, aimer même une éthique religieuse, et cependant ne jamais ouvrir leur cœur à la grâce de Dieu, parce que restant certains, persuadés de la légitimité de leur espérance fondée appuyée sur leur conduite, c'est autrement dit la propre justice, ce que l'on appelle la propre justice, qui fait obstacle à la grâce de Dieu. Et en outre, Dieu va montrer qu'il faut absolument que son amour trouve pénétration dans le cœur de l'homme, il faut que l'homme parvienne à aimer Dieu indépendamment de toutes les circonstances de son existence, indépendamment de son environnement, indépendamment de ce qu'il a ou n'a pas, n'est-ce pas? Il faut que l'homme parvienne à aimer Dieu. L'homme sauvé, et c'est valable pour nous, sera un homme qui aimera Dieu pour lui-même. Dieu doit être aimé pour lui-même, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez que la leçon du livre de Job, nous en reparlerons encore, et je vais en reparler tout à l'heure, mais cette leçon, n'est-ce pas, est bien différente, éloignée même de celle que certains évangélistes ou auteurs évangéliques entendent retirer du livre et qui est simplement une sorte de philosophie de la souffrance humaine. Souffrance humaine dont on ne discerne pas les causes. Nous arrivons au chapitre 25. le troisième discours de Bildad à Job. Ce n'est pas long, 6 versets, nous le lisons. Bildad de Shuach prit la parole et dit « La puissance et la terreur appartiennent à Dieu, il fait régner la paix dans ses hautes régions, ses armées ne sont-elles pas innombrables, sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas, comment l'homme serait-il juste devant Dieu, comment celui qui est né de la femme serait-il pur ? Voici la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux, combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. » La pensée qui est exposée dans ce court chapitre est foncièrement juste. Nous avons déjà vu qu'il y a des affirmations, des assertions qui sont isolément justes, isolément du contexte, c'est-à-dire essentiellement de l'emploi qui en est fait. Mais là, ici, nous avons là des assertions absolument justes. Toutefois, cette pensée ici exprimée caractérise tous les hommes, autant Job que les trois amis de Job, et Job qui a le tort de se considérer juste devant Dieu par lui-même, mais les amis de Job qui ont un tort analogue, l'exprimant autrement, mais un tort analogue, car aucun d'eux ne s'est vu lui-même coupable d'iniquité. Ils en ont beaucoup parlé, mais ils ne se sont jamais humiliés, jamais attribué la moindre iniquité. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voilà quelque chose, évidemment, que nous pouvons nous considérer pour préparer la leçon d'ensemble que nous allons retirer du livre. Job, c'est vrai, est intègre et droit, Dieu l'a dit, nous allons le revoir encore. C'est vrai qu'il se détourne du mal, il prend à cela un grand soin, il y a réussi, c'est extraordinaire, c'est une des grandes données du livre, grande donnée de ce problème, mais malgré cela, ce qui est dit ici, lui, est applicable. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Lui se prétend juste, et il prétend que si Dieu faisait attention à lui vraiment, et si Dieu l'écoutait, il ne pourrait que confirmer son innocence et sa justice. Il se trompe lourdement. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Cela est impossible, et c'est justement une des choses essentielles que Job ignore encore maintenant, qu'il n'a pas reconnu. Nous arrivons au chapitre 26, que nous allons lire aussi, 14 versets. Job prit la parole et dit: comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence, quelle abondance de sagesse tu fais paraître, à qui s'adressent tes paroles, et qui est-ce qui t'inspire? Devant Dieu, les ombres tremblent, au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu, l'homme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide, il subterre sur le néant, il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids, il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée, il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres, les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace, par sa force il soulève la mer, par son intelligence il en brise l'orgueil, son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard, ce sont là les bords de ses voies, c'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? C'est très beau, n'est-ce pas? Nous rappelons encore ici la valeur littéraire de ce livre qui transparaît tout de même à travers la traduction. Job veut montrer à Bildad qu'il peut lui aussi parler de la puissance de Dieu et de ses grandes œuvres de créateur. Ce faisant, il énonce de solides vérités qu'il nous est possible alors de détacher, puisque là, ils n'ont pas grand-chose à faire avec le contexte, nous pouvons les détacher. Ces vérités sont notamment dans les versets 7 à 10. Ici, les commentateurs mal inspirés, plus ou moins incrédules, beaucoup plus incrédules que croyants, ont tout de suite voulu, en quelque sorte, justifier leurs attaques contre la Bible, car c'est en général ce qu'ils aiment faire, bien des théologiens. Et alors, il y a là quelque chose qui les a surpris, n'est-ce pas, la terre suspendue sur le néant, sur le vide, et puis ce cercle, ce fameux cercle, n'est-ce pas. Alors là, ça les a tout de même touchés, parce que ils se sont dit, il n'est pas possible que, à ce moment-là, dans l'état de la révélation, à cette époque-là, cette époque d'ignorance, on puisse parler d'une façon exacte, selon les données de la science moderne, et considérer la Terre comme un globe, la planète comme un globe qui est suspendu, en effet, dans le néant. Par conséquent, ici, ça ne peut traduire que la vue très imparfaite qu'avait l'humanité à cette époque. Alors, ils ont vu ceci, n'est-ce pas ? Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Alors, ils interprètent ça de la manière suivante. Eh bien, Job veut tout simplement décrire la Terre, hein, comme on la pensait à ce moment-là, on la concevait, une espèce de disque plat, la Terre étant un disque plat, entouré par un cordon d'eau, et puis par-dessus la voûte des cieux, une espèce de plateau à fromage avec sa cloche, n'est-ce pas ? Et puis, alors là, au bord, il y a les eaux, c'est une conception qui n'est pas d'ailleurs tout à fait celle-là, que l'on trouve effectivement dans l'Antiquité, jusqu'à un certain point de l'histoire. Ça n'est pas du tout cela. Il étend le septentrion. Pourquoi le septentrion ? Parce que l'on voyait la Terre un petit peu comme partie de son orbe, n'est-ce pas ? Du septentrion. On la voyait en quelque sorte, n'est-ce pas, comme devant toute sa matière et tout son volume au septentrion, point de départ du globe. Il suspend la Terre sur le néant, eh bien voilà qui est quelque chose de tout à fait exact, il renferme les eaux dans ses nuages. L'on savait très bien que les nuages étaient faits donc d'une infinie quantité de gouttelettes d'eau, n'est-ce pas ? De l'eau en suspension, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids, les nuages restent constitués, sans quoi s'ils éclataient constamment sous leur poids, ils ne pourraient pas subsister en l'air, ils ne pourraient pas voyager, être poussés par les vents, ils laissent tomber l'eau dans certaines conditions, mais enfin, ils restent formés, ils subsistent, dans leur formation, voilà ce que veut dire notre texte, il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres, ce qui correspond à la Genèse. La terre était informe et vide, Et Dieu y fait d'abord apparaître la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut premier acte créateur. Ensuite, la terre était une masse aqueuse. Une masse aqueuse, n'est-ce pas? Il n'y avait que des eaux, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, l'esprit de Dieu était là, et elle n'avait pas la forme d'une sphère, elle était, si vous voulez, un peu comme ayant une forme indécise, comme un nuage. Je ne veux pas reprendre toute la théorie de formation de la Terre selon certains auteurs, ceux qui peut-être nous ont donné la meilleure vision sur ce grand problème, ce n'est pas notre propos maintenant, mais n'est-ce pas, voyons simplement la Terre informe et vide, les eaux, et puis Dieu trace un cercle, c'est-à-dire une limite, n'est-ce pas, ça va être, si vous voulez, l'altitude zéro, il trace un cercle et à ce moment-là, sépare les eaux du dessus des eaux du dessous. Les eaux du dessous, les eaux des océans, qui dans la Bible sont vues comme les eaux renfermant les ténèbres sont à l'intérieur du cercle, en dessous du zéro, à l'intérieur du cercle, avec les eaux, si bien que les eaux de l'océan sont dans la Bible vues comme des eaux de perdition, comme les eaux de l'abîme. La mer, c'est l'abîme, le grand abîme. Et les eaux du dessus sont au contraire les eaux qui vont permettre le ruissellement sur la terre, les eaux de bénédiction, les eaux qui sont dans la lumière. Et cette séparation a été faite, vous savez qu'elle conditionne les circonstances, plus exactement, elle conditionne la terre, la vie sur la terre, et les quantités d'eau qui sont en dessus de la terre, c'est-à-dire dans le ciel, sont extrêmement importantes. On a voulu les chiffrer approximativement, mais elle constitue une part extrêmement importante de la masse des eaux qui appartiennent à notre globe et à son environnement. Voilà. Et donc il y a là, n'est-ce pas, quelque chose qui vient d'inspiration. Il est certain que Job prononce là des choses qui sont exactes, des vérités qui viennent, lui viennent d'inspiration. Parce que vous voyez que tout ça, dans le fond, est devenu parole de Dieu. Hein. Même les discussions des amis, même les erreurs que commettent ses amis, les erreurs surtout d'orientation, les erreurs d'inspiration, hein, tout cela est devenu parole de Dieu. Quelqu'un me disait un jour, « Ah, mais vous savez, la Bible, parole de Dieu, n'est-ce pas ? Eh bien, elle est telle, du fait qu'elle est inspirée du Saint-Esprit, que n'importe quoi, n'importe quel verset que l'on lise, eh bien, il faut le prendre comme une direction de Dieu, comme une affirmation de la vérité. Alors, je dis à ce quelqu'un, mais vous n'êtes pas, par hasard, vous tombez à l'envers, sur la tête. Hein? La vérité résulte de ce que nous dit la parole de Dieu, à condition que nous comprenions ce qu'elle nous dit. Et elle ne nous le dit pas en un seul verset. La parole de Dieu n'est pas composée de versets juxtaposés et qui annoncent comme des articles de code les vérités à retenir, n'est-ce pas ? Il y a des choses qui sont dites et qui sont précisément à rejeter parce qu'elles sont dites par des gens qui sont insensés ou qui sont dans les ténèbres, mais cela, le texte nous le montre bien. Nous avons, par conséquent, si cela nous est dit, c'est pour nous montrer ce que nous devons rejeter, ce que nous ne pouvons pas prendre. Il y a, bien sûr, un jugement de l'esprit à utiliser pour comprendre les Écritures et s'en servir. Hein. Nous arrivons au chapitre 27, dernière réponse de Job à ses trois amis. Je ne vais pas lire ce chapitre, simplement vous le résumer. Dans les 10 premiers versets, Job veut rester intègre. Il exprime sa volonté de rester intègre, quoi qu'il arrive. Mais il déclare que Dieu lui refuse justice et qu'il ne faiblira pas dans sa volonté de se justifier. Il veut rester juste, intègre, hein. Dieu lui refuse justice, mais pourtant, lui, il ne faiblira pas dans cette volonté de se justifier. Se maintient dans la justice, mais il veut d'autre part se justifier. Et si Dieu ne comprend pas, si Dieu ne voit pas encore, parce que c'est ce qu'il pense, si Dieu ne voit pas encore qu'il est vraiment juste, eh bien, pourtant, lui, il n'hésitera pas, il restera dans cette affirmation de sa propre justice. Dans les versets 11 à 23, Job revient sur les voies de Dieu, et le voici, chose étonnante, se déclarant d'accord à ce sujet avec ses amis. Oui, il parle de la part que Dieu réserve aux méchants, et cela selon la thèse même soutenue par ses interlocuteurs. Oui, c'est ce que ses interlocuteurs lui avaient surtout opposé, n'est-ce pas? Tu vois, voilà la part des méchants. Laissant bien sûr sous-entendre, si tu as la part, c'est que tu es méchant. C'est que tu as commis des iniquités. Voilà quelle était la thèse de ses interlocuteurs. Et Job, lui, avait soutenu la thèse du bonheur des méchants pour se défendre. Il avait dit, mais non, les méchants sont heureux, ils prospèrent. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, si j'étais un méchant, je ne serais pas dans cet état. Je serais donc, vous voyez bien que je ne suis pas un méchant. Eh bien, maintenant, au contraire, il va parler de la rétribution des méchants. Le méchant est frappé dans ses biens, dans sa famille, et Dieu lance sans pitié des traits contre lui, sans pitié des traits contre lui. Alors Job se contredit. Revoyons en effet un peu le verset 21, simplement dans le verset 20, dans le chapitre 21, les versets 13 et 30. Il s'agit des méchants, ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, retire-toi de nous ne voulons pas connaître ta voix. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants, mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon? Non, n'est-ce pas, au verset 30, par exemple, au jour du malheur, le méchant est épargné, au jour de la colère, il échappe. Alors Job se contredit du tout au tout. Du tout au tout. Ce qui nous amène à une réflexion. Nous sommes là pour réfléchir, bien sûr, n'est-ce pas? Il y a des gens qui commentent, par exemple, Job, et puis, ils ont comme... Ils le font pour toutes les parties de la Bible, la maladie de vouloir se prendre un personnage et ce personnage lui accorder tous les avantages possibles. Ce personnage, c'est presque un idéal. Voilà encore une des déformations, ne pas que l'on trouve dans les systèmes interprétatifs de la Bible. C'est extraordinaire. Alors, Job, eh bien, malgré tout, c'est un personnage intègre, droit, il ne peut pas se tromper, alors il faut l'excuser en tout. Vous voyez comme c'est stupide, ça n'a aucune objectivité. nous ne retirons rien à ce que Dieu a dit, il est intègre et droit, n'est-ce pas? Mais nous voyons bien les limites de cela. Et nous voyons bien tout de même que Job, ici, par exemple, se contredit. Alors, la leçon à tirer de cela, c'est que les disputes, les discussions, comme celles qui ont opposé les trois amis à Job, eh bien, ces discussions ne mènent qu'à l'égarement. Et on peut y employer les vérités que l'on connaît, les vérités dont on est sûr, n'est-ce pas ? Mais on les emploie pour soutenir passionnément des thèses d'autodéfense. Comme c'est le cas de Job, c'est le cas des amis, n'est-ce pas? Ils veulent défendre leur point de vue, défendre leur situation, leur personne, pour Job, leur propre justice, n'est-ce pas? Et alors, ils emploient des thèses. Tout à l'heure, c'était commode, Job proclame le bonheur des méchants, et les méchants ne sont pas atteints. Dieu les laisse prospérer, toujours. Il en fait une chose générale. Et puis maintenant, il voit au contraire la rétribution des méchants, c'est-à-dire qu'il tombe d'accord, en somme, avec ses amis, ce qu'ils ont soutenu contre lui. Chapitre 28, eh bien nous allons le lire, celui-là. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité, dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités, ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu, balancé, loin des humains. Il voit, n'est-ce pas, des gens descendant par, non pas des ascenseurs, mais des systèmes de cordes, dans les puits profonds, creusés au sein de la terre pour extraire certains minerais ou certaines matières. La terre, d'où sort le pain, est bouleversée dans ses entrailles, comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or, l'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du vautour ne l'a point aperçu, les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, le lion n'y a jamais passé, l'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des tranchées dans les rochers, et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, et il produit à la lumière ce qui était caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux, quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Eh bien, c'est une chose extraordinaire parce que il y a là une réponse de Job, continuation de sa réponse, et en réalité, nous nous trouvons là devant un enseignement, un énoncé de hauts principes que nous pouvons prendre du tout au tout, et qui est extrêmement intéressant, et qui n'a rien à voir, dans le fond, au milieu de la discussion qui oppose les trois amis à Job, rien à voir, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui constitue en quelque sorte un morceau détaché. Mais cela nous montre jusqu'à quel point Job avait pénétré bien des mystères. Cela nous montre que sa pensée était allée loin et que il n'était pas sans avoir reçu une certaine inspiration de l'Esprit de Dieu. Dieu ne lui avait même pas refusé son esprit pour qu'il soit éclairé comme il l'est là. Et quelle est sa démonstration? Eh bien, elle est celle-ci. L'homme a beau pouvoir exécuter des travaux très habiles et très ingénieux, il ne détient pourtant pas la sagesse et l'intelligence. Les travaux ingénieux, eh bien, Job les cite, précise, l'homme peut extraire du fer de la terre et divers minerais, et pour cela, il peut bouleverser le sol profondément même, il creuse, et vous voyez, à ce moment-là, il n'y avait pas de machines, de bulldozers, de pelles, de toutes sortes d'engins mécaniques comme ceux dont on emploie aujourd'hui qui sont très puissants, et pourtant l'homme, par un travail de fourmi, en quelque sorte, arrivait aussi à des travaux gigantesques. Eh bien, il peut bouleverser le sol profondément, il peut même renverser des montagnes, supprimer complètement des montagnes à force de creuser dedans pour en prendre le contenu. Il peut ouvrir des tranchées, il peut forer des puits profonds, arrêter même des rivières, détourner des rivières, éclairer les endroits les plus sombres. Je ne sais pas comment ils éclairaient, ils n'avaient pas l'électricité. Sans doute pouvait-il disposer de torches véritablement lumineuses, parce que là, Job fait allusion à cela, n'est-ce pas? Chasser les ténèbres, par exemple, dans un puits profond, dans une mine de la terre profondément enfoncée, eh bien, à ce moment-là même, on pouvait chasser les ténèbres, éclairer tout cela. Les endroits les plus sombres. Alors, ça, n'est-ce pas, Job montre que les créatures animales, sont loin de pouvoir réaliser des choses comme ça, mais l'homme, lui, y est parvenu. Il est ingénieux, vraiment, et il va loin dans les travaux qu'il veut faire et qu'il conçoit. Et malgré cela, malgré cette activité étonnante, n'est-ce pas, et qui manifeste de la part de l'homme des capacités, eh bien, malgré cela, la sagesse, qui, elle, est bien plus précieuse que les matières les plus précieuses, l'or le plus fin, l'onyx, le saphir, le topaz, etc. Malgré donc cela, la sagesse, elle, ne se trouve nulle part dans cet univers matériel et ne se trouve nulle part au milieu du monde des vivants, au milieu des hommes. Nulle part. Ni la sagesse, ni l'intelligence ne s'y trouvent. Eh bien, Job avait su, par conséquent, établir la différence, le départ, entre l'intelligence d'activité, l'intelligence qui guide l'homme dans ses activités extraordinaires, et aujourd'hui, n'est-ce pas, elles sont encore bien plus extraordinaires. Il avait su donc établir le départ entre cette activité-là, cette intelligence qui conduit l'homme, qui permet à l'homme cette activité, et puis la véritable intelligence et la sagesse, dont l'homme est entièrement dépourvu. Cette sagesse, elle est cachée à tous les regards, et Dieu seul en sait le chemin, car c'est lui qui l'a fait naître et qui lui a donné ses bases. Dieu a seul été capable d'établir cette richesse, cette sagesse dans les régions de l'esprit, n'est-ce pas? Nous sommes là en plein dans le domaine de l'esprit. Il a établi cette sagesse qui est une sorte de haute philosophie, une haute philosophie qui a la capacité de faire apparaître l'état de perfection et donc de faire subsister éternellement les choses créées ou les êtres créés. L'état de perfection se présente par le fait que Dieu utilise une haute sagesse, j'appelle ça une philosophie, le mot est peut-être pas tout à fait propre, mais peu importe, une haute philosophie qui n'est pas une philosophie discuteuse, mais une philosophie qui est constructive, constructive de la perfection. Voilà ce qu'est cette sagesse, cette haute sagesse. Alors, il vit la sagesse, Dieu vit la sagesse, et la manifesta. Il la met à l'œuvre, il veut qu'elle se manifeste dans des œuvres. Il en posa les fondements, les bases, et la mit à l'épreuve. Donc, Dieu, n'est-ce pas, a édifié, préparé, cela dans le domaine de l'esprit, cette haute philosophie, pour l'appeler de ce nom, cette haute philosophie, c'est-à-dire cet ensemble, je ne dirais pas de principe, ce serait restreindre la sagesse, mais ces pensées, n'est-ce pas, qui permettent d'atteindre dans toutes les œuvres que Dieu va entreprendre, d'atteindre la perfection, d'établir la perfection, et c'est-à-dire, par conséquent, la possibilité d'une subsistance éternelle. C'est la perfection qui permet aux œuvres de Dieu, qu'elles soient êtres vivants ou choses, de subsister éternellement. Dieu, en somme, par le moyen de cette sagesse dont il a lui-même assurer la conception, et par le moyen de cette sagesse, Dieu s'est donné une maîtrise parfaite de l'univers qu'il crée. Alors, ensuite, ce chapitre, ce dernier verset du chapitre 28, conclut: puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Il faut que je vous dise rapidement ce que cela signifie. Cela signifie que pour atteindre à la mise en utilisation de cette sagesse de Dieu par laquelle Dieu établit la perfection, pour atteindre à la mise en utilisation de cette sagesse ainsi que à la compréhension des œuvres de Dieu, elles sont incompréhensibles sans cette sagesse à laquelle est liée une intelligence d'esprit, intelligence spirituelle. Alors, pour atteindre à la mise en utilisation de cette sagesse, l'homme n'a qu'une seule voie à emprunter, et cette voie, c'est se laisser conduire par la crainte du Seigneur. Ici, c'est un raccourci, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Eh bien, cela veut dire, n'est-ce pas, que la sagesse apparaîtra en l'homme si l'homme possède en son cœur la crainte du Seigneur et la met en pratique. La crainte du Seigneur est s'il s'éloigne du mal, s'il sait que l'une des premières directions de la sagesse, ce sera de s'éloigner du mal, alors il aura l'intelligence. Il fera preuve d'intelligence et pourra utiliser l'intelligence. Qu'est-ce donc que cette crainte du Seigneur dont il nous est parlé ici, comme dans le livre des Proverbes, et dont nous retrouvons l'expression aussi dans le Nouveau Testament? Bien qu'il nous soit dit, l'amour bannit la crainte. Alors, c'est qu'il y a, n'est-ce pas, dans la pensée biblique, différents plans, différentes conceptions. Et là, je fais une petite digression, c'est infiniment dangereux, infiniment scabreux que de construire des interprétations ou des doctrines avec la concordance. La concordance est un instrument utile, nécessaire, encore est-il qu'il faut savoir s'en servir. D'abord, celle que nous avons entre les mains est fort incomplète et il lui manque quantité de passages. Ces instruments que sont les concordances sont très difficiles à utiliser. Il faut beaucoup d'attention, de perspicacité. Parce que, n'est-ce pas, si par exemple on prend le mot « crainte », alors on va pouvoir accoler l'un à côté de l'autre et faire peut-être un ensemble d'un tas de choses qui précisément ne vont pas ensemble. Le mot, un mot dans la Bible peut avoir différentes acceptions, son sens varie. Et ça, il faut s'en rendre compte, évidemment. L'étude de la Bible n'est pas quelque chose d'aussi simple qu'on peut croire. Alors, il faut prendre garde, n'est-ce pas, le mot crainte en particulier peut nous désigner l'incrédulité la plus irréductible. Alors qu'ici, n'est-ce pas, la crainte du Seigneur, eh bien, n'est pas la crainte de l'incrédulité, mais au contraire une crainte qui est l'accompagnement de la foi. Alors, les croyants sont ceux qui craignent Dieu. Alors, je ne retiens que le concept crainte qui est associé à la foi, qui fait partie même de la foi. Les croyants sont ceux qui craignent Dieu ou qui craignent son nom. Par exemple, nous pouvons même dire que la crainte filiale, appelons-la filiale, celle-là, est associée à la louange et à l'adoration des élus dans le ciel. Prenons par exemple l'Apocalypse. Au chapitre 14, verset 6, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Craignez et adorez. Craignez, donnez gloire et adorez. Et puis, dans le chapitre 15, verset 4, « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Voyez-vous, la crainte du Seigneur est là alliée à l'adoration, à la louange de Dieu. Elle est en somme, si vous voulez, si je veux aller vite, je ne vais pas m'étendre sur l'étude de ce mot maintenant, mais elle est le contraire de l'orgueil dans les cœurs. Celui qui a la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, est quelqu'un qui est humble et qui n'a plus en lui l'orgueil. Alors je souhaite que vous ayez tous la crainte. Et cette crainte, elle comporte l'obéissance au commandement de Dieu, c'est pourquoi je vous dis, elle accompagne la foi, et elle conditionne la sanctification du chrétien. elle conditionne la sanctification du chrétien. Je lis par exemple dans 2 Corinthiens 7, 1, « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » C'est pas la peur, mais c'est la crainte de Dieu. On n'est pas devant la majesté de Dieu, devant la sainteté de Dieu, on ne vient pas avec sa légèreté d'homme frivole, d'une manière inconsidérée, on vient dans l'humilité, car on sait que notre nature n'est que faiblesse, et que le Seigneur est grand et de combien au-dessus de soi. Bon, alors vous voyez, n'est-ce pas, que Job a énoncé dans ce chapitre 28, vraiment, de grandes vérités, là, un ensemble qui nous est utile. On peut prendre ce chapitre 28 et en faire, en somme, le transporter hors du livre de Job, en faire un morceau de la révélation qui, à lui seul, est très intéressant. Au chapitre 29, nous trouvons alors le commencement d'un long monologue de Job, ce qui va comprendre trois parties, chapitre 29, chapitre 30 et chapitre 31. Alors, je ne vais pas lire cela, simplement d'abord vous résumer le chapitre 29. Ici, Job ne parle plus à ses trois amis, il se parle comme à lui-même. Il a besoin de se rappeler avec mélancolie le temps de son bonheur, le temps où il était estimé de tous, à cause de sa charité et de ses vertus. Il prenait alors plaisir à manifester la justice de Dieu et à servir de moyen de manifestation à cette justice. Il était là pour montrer quelle était la justice en tout son comportement, montrer la justice de Dieu. Mais c'est magnifique, mais en cela, mes amis, il nous donne une leçon à nous chrétiens. Nous, n'est-ce pas, nous avons le salut par grâce, eh bien, mais nous avons besoin de cela. Eh bien, Job, il l'avait. Et il n'avait pas le salut par grâce encore. Et pourtant, il avait cela. Voyez-vous, et quelque chose, n'est-ce pas, qui peut nous étonner, eh bien, je crois que Job n'exagère pas, c'est vrai. Son goût, son plaisir, c'était d'entrer pleinement dans la justice et de la manifester dans tout son comportement, dans toute sa vie. Et il la connaissait, et on s'aperçoit par le détail, n'est-ce pas, je vous laisse le soin de lire ces chapitres, et on voit qu'il connaissait la justice de Dieu. Il croyait pouvoir compter sur la stabilité du bonheur qu'il goûtait dans cette première phase de son existence. Au chapitre 30, nous avons la suite du monologue de Job, comme on l'appelle, et alors là, dans ce chapitre, il considère ses malheurs présents. Le chapitre 30 commence d'ailleurs par « Et maintenant, je suis la risée de plus jeune que moi. » Les malheurs présents. À son bonheur passé, Job oppose sa triste et lamentable condition présente. Et il voit avec souffrance des hommes méprisables, il y en a toujours sur la terre des hommes méprisables qui ont saisi l'occasion de ses malheurs pour l'accabler par le moyen de chansons. On devait le porter en dérision, il était la risée, on le portait en dérision dans des chansons. Les chansons, c'est toujours facile de construire des chansons, et tout le monde s'esclaffe. Dans des chansons, par des propos, et même par des injures. Et sans cesse, Job était humilié devant ces hommes méprisables. Que pouvait-il répondre ? Chers amis, mais ça faisait partie, bien entendu, de cette épreuve extraordinaire à laquelle Dieu soumettait son fidèle Job. Et c'est Dieu que Job voit comme l'auteur de ses malheurs. Ça, c'est pas très bon, bien sûr. Et Dieu qui est l'auteur de ses malheurs. Et Dieu, vers qui il crie pourtant pour demander secours, ne répond pas. Dieu fait la sourde oreille. Et pourtant, n'est-ce pas, dans d'autres textes, dans le psaume 107 par exemple, nous voyons que Dieu entend le cri des malheureux, le cri de ceux qui sont dans la détresse, il entend leur cri et il les secourt. C'était le cas du Seigneur Jésus aussi. Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, avait bien lancé cet appel, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et quand cette cananéenne, dans le territoire de Tyr et de Sidon, vient vers lui et crie derrière lui, et vient même se prosterner à ses pieds, aie pitié de moi. Au début, il ne lui répond pas. Lui qui appelle, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et cette femme cherche du repos, cherche justement le secours. Elle vient avec une foi extraordinaire. Et le Seigneur Jésus ne lui répondit pas un mot. Ah ! Cela nous fait découvrir peut-être quelque chose. C'est qu'il y a certaines attitudes de Dieu auxquelles nous ne nous attendrions pas. Et des attitudes de Dieu qui sont nécessaires. Oh, combien, et nous le disons avec Paul, les voies de Dieu sont incompréhensibles, vraiment, n'est-ce pas, incompréhensibles. Cependant, elles sont magnifiques, elles sont des voies de justice, elles sont des voies de sainteté, elles sont les voies de son amour et de sa miséricorde. Et ça, il ne faut jamais s'en départir, jamais. La déconvenue de Job est terrible, attendant le bonheur, c'est le malheur qui lui arrive. Ce sont les ténèbres qui lui parviennent à la place de la lumière. Il est vrai que, comme le début du livre le montre, Dieu a permis à Satan d'atteindre Job dans sa santé sans que Satan puisse l'amener à la mort. Alors, que Dieu ne peut pas être insensible au cri de l'infortuné Job, qui avait aimé la justice, qui avait été plaisante à Dieu. Il est impossible que Dieu ne soit insensible. Dieu qui entend tout, Dieu qui voit tout, Dieu qui sonde tout. Il ne peut pas être insensible et il ne lui répond pas. Il le laisse là, plongé dans son malheur. Est-ce dureté de la part de Dieu ? Non. C'est amour. Peut-être que nous, si nous avions été à la place de Dieu à ce moment-là, n'aurions pas résisté, nous aurions dit, bon, ça suffit quand même, non, il souffre trop. Allons vite à son secours. Nous n'aurions pas aimé Job. Nous ne savons pas secourir les autres, voyez-vous. Nous n'avons pas appris suffisamment. Il faut que nous l'apprenions. Secourir, c'est dès que quelqu'un a quelque chose, dès qu'il est dans une épreuve, venir essayer de l'en faire sortir, essayer. C'est arrêter, très probablement, une œuvre qui est en cours, que Dieu suit, que Dieu fait, pour l'amener quelque part. Pour l'amener à un certain point. C'est l'amour qui fait que Dieu ne répond pas. Il faut que la souffrance fasse son œuvre et que le cœur de Job soit profondément travaillé, humilié. Il passe par toutes sortes de pensées, il se défend, il se débat. il dit des choses inconsidérées, mais il va arriver, il va y arriver à l'humiliation. C'est son salut qui en dépend. Et pourquoi Dieu veut-il tant le salut de cet homme? Parce qu'il est intègre et droit. Et parce qu'il a plu à Dieu. Parce que Dieu a été honoré par cette crainte qu'il avait de lui. Dieu a été vraiment honoré. Dieu a vraiment été glorifié par la conduite de Job. Il aime cet homme. Il y tient. Il est précieux à Dieu. Alors il le fait souffrir. Il le laisse dans la souffrance. Il le laisse dans ce bain, dans ce travail où son âme passe par toutes les transes possibles. Si Dieu arrêtait trop tôt l'épreuve, elle resterait sans fruit, improductive. Le cœur de Job garderait son erreur, son illusion. Son sentiment de propre justice, et il n'apprendrait jamais que le cœur de l'homme est mauvais et que le sien n'échappe pas, qu'il est mauvais. Il n'apprendrait jamais que l'homme est dans un état de séparation avec Dieu et qu'il, dans cet état, il ne peut pas être sauvé et qu'il faut qu'il soit réconcilié avec son Dieu. Mais pour être réconcilié, il faut qu'il soit humilié. Ce n'est pas volontiers que Dieu humilie l'homme, dit le psaume, mais c'est pour son bien. Ah, nous ne pourrions pas, n'est-ce pas, évidemment, concevoir que Dieu puisse aller jusque-là. Eh bien, ce que cela nous aide à concevoir, peut-être, à comprendre, peut-être, pour une part, autant que faire se peut, comprendre, peut-être, ce qui nous arrive, les événements de maintenant. Et si nous le comprenons, peut-être irons-nous plus vite au point où Dieu nous attend, à cette humiliation où son amour nous veut. Il préfère nous recueillir brisés maintenant, brisés, pour ensuite nous donner cette existence dans un corps sublime, nouveau, qui ne peut plus mourir, existence glorieuse, éternelle. Il préfère cela, et que nous soyons brisés maintenant pour être ensuite glorifiés. Nous arrivons au chapitre 31, que nous verrons encore ce soir, car il faut que nous allions vite. Je ne vais pas le lire et je vous laisse le soin de le lire. Dans ce chapitre, vous verrez que Job revient à son innocence, qu'il proclame de plus belle, il affirme qu'il a toujours fui les passions humaines, et qu'il a soutenu les pauvres et les faibles, les traitant avec justice, il n'a jamais laissé l'idolâtrie même pénétrer en son cœur, cette idolâtrie. Pourtant, elle essayait bien de le gagner par ses richesses. Il avait de grandes richesses. Il aurait pu contempler son or, son argent, ses troupeaux, et puis dire, « Mon âme, tu as du repos en cela. » C'eût été une position idolâtre. Eh bien non, il ne l'a pas voulu, il a compris qu'il ne pouvait pas cela. Et autour de lui, on adorait le soleil, la lune. Lui, il s'en écarte. Il n'a jamais consenti à l'arrogance, arrogance des puissants, des riches, usant au contraire de charité pour les pauvres, pour les indigents, pour l'étranger. En résumé, il s'est rigoureusement gardé de toute convoitise, convoitise de toutes sortes, de tout mensonge, de tout adultère, de toute dureté envers les esclaves et les indigents, de tout orgueil dans sa situation élevée, de toute idolâtrie alors qu'il possédait de grandes richesses, de toute joie maligne, joie qu'aurait pu lui inspirer le malheur d'un ennemi, par exemple, se réjouir, n'est-ce pas, de celui qui l'a provoqué. Eh bien non, il ne se réjouissait pas du malheur, même de son ennemi. Il se gardait de tout manquement au devoir de l'hospitalité, de toute hypocrisie, comme aussi des péchés, qu'ils soient grossiers, qu'ils soient plus subtils, de tous les péchés, il y en a tant qui se présentent devant l'homme au cours de son existence. Même si la terre, sa terre à lui, avait eu une voix, elle n'aurait pas plus pu le condamner. Même si cette terre se mettait à parler, elle n'aurait pas pu condamner son propriétaire, Job, n'est-ce pas ? Elle ne l'aurait pas pu. Vraiment, Job était intègre et droit, et craignait Dieu en se détournant du mal. Or, voici qu'il est accablé de maux, de souffrances physiques et morales, d'humiliation, comme s'il était cet abominable impie arrivé au jour de son châtiment. Comment comprendre? Comment comprendre cela? Autrement qu'en sachant que l'amour de Dieu consent à ce tourment prolongé, à ce lourd tourment prolongé, pour sauver un homme droit et agréable à Dieu de la mort éternelle qu'il porte en lui. C'est un homme droit, c'est un homme intègre, il porte comme les autres en lui la mort éternelle. Il est séparé de Dieu. Comme tout homme, quelles que soient ses vertus. Alors là, Dieu veut cela. Et en outre, j'ajoute ce que j'ai déjà dit, n'est-ce pas, et c'est important, ne faut pas l'oublier, sauver cet homme de la mort éternelle, cela aussi nécessite que ce cœur soit rendu capable de concevoir de l'amour pour Dieu et pour Dieu seul. Concevoir de l'amour pour Dieu seul, pour la personne de Dieu, indépendamment de tout intérêt. Voilà, chers amis, n'est-ce pas, ce qui est le mobile, l'intention de Dieu, elle nous apparaît terrible. Oui, l'amour de Dieu est terrible dans son exigence. Il veut la vie de l'être aimé. Il veut son salut. Il veut son cœur capable de l'aimer plein d'amour, car autrement, il serait incapable d'entrer dans le royaume de Dieu, d'entrer dans l'éternité. Dans le royaume de Dieu, il faudra que toutes les créatures soient capables d'amour pour la personne de Dieu, pour la personne de Dieu, d'une manière désintéressée. En effet, Satan a bien visé le point sensible. T'aime, est-il attaché à toi d'une manière désintéressée? Est-ce d'une manière désintéressée qu'il te sert et qu'il craint Dieu? D'une manière désintéressée, oui, il faut cela. Sans quoi, l'œuvre de Dieu serait vouée à un échec total. Alors, le prix peut être grand, la souffrance d'un être qui plaît à Dieu, qui est aimé de Dieu, sa souffrance, son tourment, ça va loin, il est travaillé par une dure, implacable épreuve, et dans cela est l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous permette de comprendre ces choses. Amen.